Leïla, est-ce que c'est un paradoxe face à une œuvre aussi individuelle, voire individualiste que celle de Niemeyer, de parler de travail collectif? Et j'ai toujours eu l'impression que la fin de sa production était devenue médiocre le jour où précisément l'équipe s'était dissoute, le jour où il a perdu son ingénieur Cardozo, le jour où il a perdu ses autres partenaires. Donc ça me semble être important. Alors je voudrais, puisque tu n'as pas vraiment eu le temps de parler de son projet de Paris pour le Parti communiste, je voudrais peut-être que tu dises en deux mots, que tu reviennes sur les clients de Niemeyer au Brésil. Tu as parlé de Kubitschek. Dans le cadre Brasilia, Kubitschek était présent, il a lancé le projet, mais comment le projet a-t-il, à Brasilia, comment, il y a une période de l'activité de Niemeyer qui me semble intéressante et obscure, qui est au fond tout ce qui conduit à la présidence de Goulart au début des années 60 et le coup d'État de 64 et ses réactions au coup d'État. Que s'est-il passé à ce moment-là?
Direct. Bon, justement, je pense que ce qui est lu comme un paradoxe, c'est justement parce qu'il y a un effacement des acteurs. On insiste à les appeler seulement collaborateurs, hein, quand parfois il y a une interaction, une vraie interaction et une potentialisation des gestes. Et je pense que l'historiographie autour de Niemeyer, c'est un peu... Justement, et là, il faut regarder dans un rapport Brésil-États-Unis, et on a mis Oscar, fait de l'époque, mais aussi fait de la générale, mais fait aussi des rapports Brésil-États-Unis, on a étouffé la dimension collectif, donc même les réflexions sur la ville et sur l'urbanisme, en bénéfice d'une position un peu ambiguë, mais qui quand même a misé sur l'homme, sur les génies, sur l'exceptionnalité. Et donc on a effacé tout un sous-monde, si on peut dire comme ça, des collaborateurs, au-delà des collaborateurs, des vrais dialogues profonds.
Plus des partenaires que des collaborateurs.
Plus de partenaires que collaborateurs. Je pense qu'il fallait les voir comme ça. Et c'est ce qui donne un travail énorme, parce qu'à cause des questions politiques, les archives se sont déchirées. Et donc il faut qu'on aille client par client, groupe par groupe, pour essayer de donner à nouveau cette texture. Et moi, je pense que la période, justement, après Brasilia, justement après 1956-59, que c'est les projets des pavillons des Palais des Arches, ou bien la commande déjà ici en France, que c'est 66. Je pense que c'est la période la plus fertile. Et le paradoxe majeur, c'est que en même temps qu'on voit justement Niemeyer mûrir de plus en plus, c'est le moment où une critique à un certain Niemeyer augmente de plus. C'est-à-dire, en écoutant tout à l'heure sur la biographie de Bachma, on voit déjà donc une nouvelle génération, de nouvelles problématiques, de nouvelles manières de traiter les questions à la fois métropolitaines, en certains cas, et tout ça. Et on voit toute une critique qui augmente sur Niemeyer. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais pour moi, la période la plus fertile, c'est justement cette période en creux, que je n'ai pas rentré là-dedans. C'est la période où les clients, donc Niemeyer a une diversité de clients. Ce n'est plus seulement les clients institutionnels ou les clients, vraiment les pouvoirs publics. Et là, c'est la période la plus riche, peut-être plus parce que c'est là qu'il a d'autres chantiers d'apprentissage avec ses partenaires. Et donc, dont sera conséquence l'œuvre du Parti communiste et même l'œuvre du Palais des Arches. Sur les Palais des Arches, on commence à avoir une bonne historiographie. Mais sur le PCF, les livres, comme j'ai dit, de Vanessa Grossman a été merveilleux parce qu'il met en situation la commande elle-même. Mais je pense qu'il fallait rentrer dans les collaborations de Prouvé, de Desroches, de Tricot. Bon, ce sont des personnages que peut-être que vous, ici en France, vous maîtrisez bien les biographies, mais qui, bon, pour moi, je sens le besoin de connaître davantage leur mode de fonctionnement pour comprendre ces chantiers quand même qui, où Niemeyer développe toute une série de à la fois de contrôle et de flotation de l'immeuble lui-même. C'est très subtil et complexe, les sièges du PCF.
Oui, en effet, il y a... si Prouvé est intervenu, c'est notamment pour faire des fenêtres qui ouvraient dans un mur rideau, parce que la bureaucratie du PCF ne voulait pas entendre parler de l'air conditionné, qui était un complot américain, comme le Coca-Cola et le Frigidaire. Donc il y a des idéologismes assez drôles. Je me tourne maintenant vers Dirk. Dirk, I was struck by your discussion of networks. Bakema caught in the networks of people coming from the resistance. And I was surprised. I have two questions, in fact. I have one question dealing with the possible relationship between open society, which has many meanings. One of the meanings is modern or late capitalism, of course. Mm-hmm. The other one is going beyond the religious and cultural fractures of the Netherlands.
Yeah.
The question I want to raise is the following one. Is there any connection to be made between Bakema's open society and the concept of the open work of Umberto Eco and his idea that a work is complete, is open to interpretation, to appropriation through reception? So that's question one. And the second, returning to the topic of generation, which is for me very interesting, who were Bakema's clients, typically? Mm. Were his clients from these underground networks of people from the war? Who were these guys? How did he meet them? Were there, like in the case of France, a sort of semi-formalized Freemasonry of people catering for these programs?
Now, the opera Aperta is, I didn't find any real connection there, right? Because it's one of the first things that comes to mind. Also because Team 10 and, talks about the notion of appropriation, and that could be part of an opera Aperta approach. But the very word open It's not just related to Eco. It's also Oscar Hansen, who talks about open form and makes it part of his pedagogical models in Poland. And open form becomes a way of openness, open form becomes a way to also talk to each other, finally enough, without being too political about it. Because it starts to talk about processes and specific contexts and actors who was participating, etc. So, and during the Cold War period, every now and then Hansen comes, not too often, but there's a, and Bakema really appreciated Hansen's contribution because the open form is part of a moment in the Team 10 discourse being circulated as a text. Your other question, the networks, what this is really very important and needs much more attention. And the thing is that, and this is maybe part of Dutch historiography, it's not much investigated. For instance, the whole story about, first to say is the whole story about World War II and the resistance, etc. And there's a problem there in the sense that it comes with this moral heaviness there. But Bakema's moral credits, because he was a prisoner of war, etc., worked also against him during the 70s and 80s when the neo-Marxist criticism is there and students and architects want to free themselves of this moral, let's say, preoccupation, which has almost became a kind of cliché, the architecture of good intentions, etc., that particular debate. So then this history is not very well documented, or not at all, so it requires quite a lot of work to retrace these networks. And what you find, or what I found until today, it's you find go-betweens. It's not that the clients themselves are part of the resistance or etc. No, there is someone who became a lawyer later and had connections. So there's interconnectedness. So someone like Pete Sanders, who was an important person in the cultural circus in the Netherlands, and was also at the basis, actually, of the foundation of the Netherlands Architecture Institute, one of the drivers, and he had his own model collection, and he donated that to us. He was a close friend of Bakema. He was also, and he's one of those go-betweens. And there's so much of this history that people also don't want to engage in. That's the other thing. So if you ask people about a war, they don't want to talk about the war. They want to talk about today or the future. I don't know if that's a typical response to such experience, but in Holland it is. So the whole idea of the Rotterdam elite clearing out the debris, it was really what the Rotterdammers did themselves. And to not look back, but to look forward, is also part of the problem of historical research here. So, yeah, it doesn't really answer your question, but there's much more to do. Yeah.
Understand. We know that the pulsion of oblivion is sometimes stronger than the pulsion of memory. Yeah. And yeah. In this particular case, it seems to be very well there.
But you should also understand that in the resistance, well, you know this, of course, criminal activities were being done. So Herman Hahn, we know that Herman Hahn was part of a resistance group that executed Germans. So, yeah, and this was not just as an execution a problem, it was also a problem because then other Dutch citizens would be killed as punishment, etc. So there's a whole other reasons why people don't want to talk about this, right?
Yes, we have the same story in France.
Yeah.
But the resistance people were called terrorists by the Germans. Yeah. That's not a reason to consider them as terrorists.
Yeah.